Genève. Côté. Nature.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cité Genève, comme chaque semaine, et en particulier dans l'émission de l'association NARIES, Genève Côté Nature. Je suis Émilie, je suis biologiste de terrain de formation et je suis toujours accompagnée de ma sœur Virginia, aussi biologiste et avec qui j'ai créé l'association, pour vous présenter cette émission.
Bonjour! Aujourd'hui, nous finissons un nouveau tournus de nos quatre volets d'émission et c'est donc dans un côté science que nous vous invitons. Mais tradition oblige, vous savez bien que nous ne commençons jamais l'émission sans vous parler d'abord du challenge de la semaine. Pour les nouveaux auditeurs, nous avons élaboré depuis 2 ans un éco-challenge pour faire réfléchir et modifier nos habitudes en mode défi dans le but de vivre plus en harmonie avec notre planète. Cette année, notre challenge consiste en 52 défis qui changent donc chaque semaine. Nous en sommes à la semaine 26 et le défi du lundi 27 au dimanche 3 juillet est de ne pas jeter de nourriture. Il faut donc anticiper les repas de la semaine pour ne pas acheter trop de victuailles. Et s'il en reste après les repas, il faut penser à des manières de les reconditionner pour les consommer à tout prix et ainsi pouvoir cocher le succès du défi de la semaine.
La semaine passée, l'émission était un côté astuce et nous vous avons expliqué les prochains défis à venir en vous proposant des conseils pour les réaliser. N'hésitez pas à aller réécouter l'émission sur le site de Radio Cité Genève ou sur le site de NARIES, www.naries.ch. Tous les podcasts sont en libre accès, ou presque, parce que nous devons modifier les montages et nous avons pris un peu de retard. Mais les émissions manquantes arrivent bientôt.
Revenons-en maintenant à notre émission du jour. Dans ce côté science, nous avons décidé de vous parler d'une nouvelle qui est sortie dans la presse scientifique récemment, en l'occurrence dans le magazine Science, qui est l'un des plus réputés. La nouvelle est la suivante. Une population d'ours blancs, inconnue jusqu'alors, a été identifiée au Groenland dans un environnement atypique, ce qui donne un nouvel espoir sur la survie de cet animal qui serait davantage capable de s'adapter au réchauffement climatique que ce que nous pensions. Nous allons tout d'abord parler de cette étude en général et de ce qu'elle nous apporte, mais restez jusqu'à la fin. Nous allons aussi vous montrer que dans tous les domaines, il faut être critique, même dans les journaux scientifiques les plus connus.
Alors, tout d'abord, posons le contexte. Le réchauffement climatique, bien que certains climato-sceptiques se fassent encore entendre par moments, n'est normalement plus à démontrer. Nos étés sont plus chauds, nos hivers aussi, à moins que certains soient bien plus froids que la normale à cause du manque d'humidité qui implique de grosses différences de température entre le jour et la nuit ou entre l'été et l'hiver. Le réchauffement climatique est dû aux activités humaines qui notamment mènent à une production de gaz carbonique qui agit comme gaz à effet de serre. Il ne peut pas sortir de notre atmosphère et de ce fait s'accumule et finit par concentrer les rayons du soleil, comme dans une serre. De la chaleur en résulte, qui ne peut pas s'échapper non plus, et qui s'accumule aussi. Si nous étions censés, nous devrions arrêter la production de gaz et donc cesser toutes les activités qui en produisent. Mais c'est malheureusement utopique de penser que nous pouvons tout stopper en claquant des doigts. Quoique, en réalité, c'est possible. Nous en avons eu un aperçu pendant le confinement de 2020, durant lequel toutes les usines ont arrêté leurs moteurs et tous les citoyens ont laissé leurs voitures au garage, puisqu'on ne pouvait pas bouger de la maison. Mais dès que les restrictions se sont levées, nos habitudes ont repris de plus belle, et les concentrations de CO2 sont revenues au niveau normal, voire ont augmenté, parce qu'il a fallu compenser le travail perdu pendant le confinement.
Ce réchauffement de la planète a d'énormes conséquences sur tout et n'importe quoi. Sur nous autres, humains, sur les plantes, sur les animaux, sur les éléments. Les effets ne se sentent pas de la même manière partout sur la planète, mais ils sont bel et bien là. Dans les pays les plus chauds, les maximums de température ne cessent de battre des records. Pendant longtemps, le record de température atmosphérique était détenu par la vallée de la mort en Californie et montait à 54,4 degrés. Le record de température terrestre, quant à lui, datait de 2005 et montait à 70,7 degrés. Et bien l'année dernière, en mai 2021, la NASA a enregistré des valeurs bien plus hautes que cela dans le désert de Lout en Iran et dans le désert de Sonora au Mexique. Le thermomètre, qui a d'ailleurs dû exploser à ce niveau, a enregistré, attention, 80,8 degrés Celsius, donc 10 degrés de plus que le précédent record. Misère.
Or, si un milieu devient de plus en plus chaud, les conséquences sur les êtres vivants qui y résident sont dramatiques. Les animaux tentent de survivre en se cachant, en restant à l'ombre, en ne sortant que la nuit. Mais dans les déserts, comme on l'a dit plus tôt, il n'y a pas d'humidité. Donc la nuit, il fait super froid. Les organismes doivent donc se débrouiller pour survivre à des écarts de température faramineux au cours d'une seule et même journée. Et les plantes, quant à elles, eh bien, en dehors des cactus, pas grand-chose ne vit dans un désert. Et les rares oasis qui existent périclitent petit à petit avec des températures pareilles, parce que le peu d'eau souterraine qui est présente va inévitablement s'évaporer et disparaître.
Ces conditions sont donc terribles pour les organismes vivant dans ces environnements. Et quand elles empirent, eh bien, il ne reste qu'à déménager. Les humains ont la chance de pouvoir inventer des climatiseurs et des brumisateurs, mais pas les animaux. Ils doivent donc bouger pour pouvoir survivre. Le réchauffement mène donc au déplacement des niches écologiques de certains animaux qui tentent de retrouver des conditions adéquates à leurs besoins. Le souci, c'est que même si on occulte ici le problème qu'il y a à changer d'endroit...
Oui, parce que sortir d'un désert, c'est déjà pas évident, et aller dans un autre coin sauvage commence à être difficile tant les humains occupent de place.
Eh bien, bon nombre de territoires sont déjà occupés par d'autres espèces. Les nouveaux venus ne sont donc pas les bienvenus partout.
Et encore faut-il avoir la possibilité de trouver de nouveaux territoires. Parce que sortir d'un désert, c'est une chose, on peut facilement imaginer qu'il existe des coins où il fait plus frais. Mais quand on est dans une zone plus fraîche, qui devient soudainement plus chaude, on peut aller petit à petit vers le nord ou vers le sud, selon de quel côté de l'équateur on est. Mais à un moment, la planète n'est pas infinie. Quand on est sur un pôle, on est sur un pôle, on n'a plus d'alternative.
De même, pour les animaux des montagnes, si la température augmente, ils peuvent monter d'un étage pour retrouver de bonnes conditions. Mais si ça continue, ils ne peuvent pas aller au-delà du sommet de la montagne. Il y a donc de nombreuses limites et entraves au déplacement des espèces. Ce n'est pas aussi facile que sur le papier.
On en arrive gentiment à parler de l'espèce qui concerne l'émission d'aujourd'hui, les ours polaires. Ces animaux emblématiques du froid, et notamment du Grand Nord, sont un des plus gros carnivores de notre planète, avec l'ours kodiak et l'éléphant de mer. Ils sont donc tout en haut de la chaîne alimentaire et se nourrissent surtout de phoques, mais aussi de renards ou d'oiseaux selon les périodes. Ils sont extrêmement bien adaptés au froid, leur fourrure blanche les cache sur la neige, leurs oreilles sont minuscules et évitent ainsi les pertes de chaleur, de même que leurs grosses pattes qui sont recouvertes de poils, et leur peau noire permet de capter la chaleur du soleil. Ils passent la plupart de leur vie sur la banquise, même s'ils sont d'excellents nageurs. En 2015, on estimait leur population qui se répartit aux États-Unis, au Canada, en Norvège, au Groenland et en Russie, entre 22 000 et 31 000 individus. Mais que se passe-t-il quand il fait plus chaud dans les pôles? Eh bien, la banquise fond. Selon le WWF, la surface de la banquise décroît de 13,4% par décennie. Autant vous dire que le territoire des ours est en grand danger, et par extension, eux aussi. Les experts parlent d'une diminution d'un tiers du nombre d'ours polaires d'ici à 2050.
C'est ici que la nouvelle du jour vient nous redonner un peu d'espoir. Dans le magazine Science, une étude est parue le 17 juin dernier et elle relate la découverte d'une nouvelle population d'ours jusque-là inconnue. Les auteurs estiment qu'il s'agit de la population la plus isolée génétiquement de tout le globe. La zone était connue des scientifiques, mais ils pensaient qu'il n'y avait qu'une seule population dans le coin. Or, une analyse génétique plus poussée, ainsi que de nombreuses observations et enregistrements pour déterminer la répartition des individus, ont démontré qu'un groupe constitué de 300 individus se détachait de la population principale. Ce fait est déjà incroyable, mais il y a encore un autre détail. C'est l'endroit dans lequel ils vivent. Il s'agit de pentes abruptes qui bordent les fjords. Dans cet endroit, il n'y a presque pas de banquise sur laquelle les ours peuvent chasser. Ils ont donc réussi à s'établir dans un environnement qui ne correspond pas du tout à leur milieu de référence.
Nous allons évidemment détailler un peu cette étude fort intéressante, mais il est temps de faire notre traditionnelle pause musicale. Aujourd'hui, nous restons dans le thème avec la chanson « Where are we going to go ?» de David Todd, qui demande justement où nous irons quand le sol sera trop sec pour que les plantes poussent ou que le soleil nous menace alors que la pollution détruit nos rivières. À bon entendeur.
Radio Cité Genève.
And they came in the day. They came till they took it all away. And all they left was a barren ground. No life can be found. Didn't give a reason and they didn't say why. millions of trees had to die. In the name of progress was all they'd say. Step aside and get out of our way. What I wanna know is where we gonna go when the rain don't make our garden grow and the soil's too dry for our seeds to sow. How long till we learn? You play with fire and you're sure to burn. A one-way ticket with a no return. Cause where we gonna go? Well, I don't know. They tell us technology's a wonderful thing. Stop to mention the destruction it brings. One step forward and two steps back. Go from the light and into the black. And they treat us like fools. Don't stop to realize it's a game we all lose. On the road to self-destruction with every step we take. Ship sinking fast, then no escape. What I wanna know is where we gonna go when the sun's a threat to low and our pollution stops our rivers flow. It's time you and me we take responsibility. It's a fragile world in dire need. Cause where we gonna go? Well, I don't know. Spending money finding life on Mars doesn't make any sense to me. I try to live at the bottom of the ocean. Some things are not meant to be. What I wanna know is where we gonna go when the oceans rise and the strong winds blow and the temperature melts the ice and snow. No time to wait. Won't be long and it'll be too late. In this together and we're all at stake. Cause where we gonna go? I don't know.
C'était David Tudd et sa chanson « Where are we going to go ?». Vous êtes de retour sur Radio Cité Genève dans l'émission Genève Côté Nature que l'association Nariès vous propose. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté science et nous mettons en avant une étude qui est parue dans le magazine Science il y a quelques jours et qui parle de la découverte d'une population d'ours polaires inconnue des scientifiques jusque-là et qui permet d'avoir un nouvel espoir quant à l'adaptabilité de ces animaux.
Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé des dégâts que provoque le réchauffement climatique sur les organismes vivants, notamment dans le fait qu'ils doivent changer de milieu pour continuer à vivre dans des conditions qui leur correspondent. Le problème, c'est que les animaux qui vivent déjà au pôle ou en haut des montagnes n'ont pas beaucoup de choix. Ils ne peuvent pas aller plus loin que le bout de la terre ou que le sommet des montagnes. Ils doivent donc s'adapter, mais cela ne se fait pas en claquant des doigts. Les adaptations qui ont permis l'évolution se sont faites sur des générations, au hasard de mutations génétiques qui ont rendu tel ou tel individu plus adapté qu'un autre et qui lui ont permis de se reproduire davantage et donc de transmettre ses gènes. Or, les changements que les animaux subissent à notre époque sont si rapides qu'ils ne peuvent pas suivre leur vitesse. Par manque de temps pour que les adaptations aient lieu et subsistent, ils sont donc voués à disparaître.
Concernant les ours polaires, ils vivent dans le Grand Nord et utilisent normalement la banquise pour chasser les phoques et éventuellement d'autres proies. Mais la banquise fond de plus en plus avec les degrés qui augmentent et les ours n'ont bientôt plus de quoi chasser. Une des découvertes incroyables que l'étude dont nous parlons évoque, c'est que la population d'ours vit sur des pentes très abruptes le long des fjords au sud-est du Groenland. Ils arrivent donc à survivre là où il n'y a pas de banquise.
De tout temps, la banquise a fondu en été, ce n'est pas une nouvelle. Le souci avec le réchauffement climatique, c'est qu'elle fond davantage, elle met du temps à revenir et elle devient par moments et par endroits quasiment inexistante. Cette nouvelle population a l'avantage d'arriver à chasser toute l'année sans banquise, grâce aux ressources qu'elle trouve dans l'écosystème dans lequel elle s'est établie, et qui est une sorte de vallée mêlant glaciers et eau douce, enclavée dans l'océan. C'est une sorte de refuge climatique extrêmement important pour la conservation des ours polaires. À cet endroit, il y a une période annuelle sans glace qui dure 100 jours de plus que le minima requis pour cette espèce.
Les données de l'étude dont nous parlons aujourd'hui sont très vastes. Elles datent de 1983 à 2017 pour des échantillons de tissus et plus récemment pour des données issues de colliers dont ont été munis des femelles. Des données géographiques sur le sud-est du Groenland ont aussi été collectées, sachant que c'est une zone où les conditions climatiques sont très instables, mais que c'est aussi la région du Groenland où il pleut le plus. La vitesse de déplacement de la banquise a été calculée, ainsi que sa largeur et la durée durant laquelle elle est présente dans la zone, notamment dans 5 fjords sélectionnés pour avoir une présence confirmée d'ours polaires. Des analyses génétiques ont été réalisées sur les échantillons de tissus pour déterminer les potentielles différences qui amèneraient à penser que plusieurs sous-populations existent.
Toutes ces informations ont permis de déterminer que la latitude de 64 degrés nord était importante pour séparer certaines sous-populations. En effet, les animaux vivant au-dessus de 64 degrés nord fonctionnent différemment de ceux vivant dessous. Génétiquement, une distinction apparaît aussi. Une analyse de la distance génétique des individus basée sur 20 LOCI microsatellites a permis de voir que la majorité des individus du sud-est du Groenland différaient significativement de ceux du nord et formaient un cluster, on appelle ça comme ça, à part. En se focalisant autour du pôle, les analyses montrent que le nombre le plus probable de sous-population est de 6. Sur 68 individus de la zone sud-est du Groenland, 14 ne se distinguent pas dans un cluster en particulier, ce qui peut être expliqué par des accouplements récents entre des individus de cette nouvelle population et des migrants qui passent de temps en temps.
On ne va pas aller plus loin dans le côté génétique, mais cette étude est vraiment très intéressante. Cela dit, en faisant quelques recherches, nous sommes tombés sur un article qui critique cette étude et le papier qui y est rattaché. Étonnant, non ? Nous avons dit au début que c'est une étude publiée dans le magazine Science. Elle a donc d'ores et déjà été revue et corrigée avant d'être admise pour la publication. Et pourtant, il y a toujours quelque chose à redire, comme nous allons le voir brièvement.
La critique a été émise par une zoologue experte des ours polaires, ancienne professeure à l'université de Victoria en Colombie-Britannique. Elle n'a pas fait de terrain pour étudier les ours, mais elle a participé à de nombreuses recherches et elle a un regard un peu différent des biologistes de terrain justement. Elle tient un site sur lequel elle met en avant des informations sur les ours polaires, sans pour autant entrer dans les discours classiques et moralisateurs de la fin proche des ours polaires ou dans la mode de tout relier au réchauffement climatique.
En l'occurrence, concernant l'article dont nous vous parlons aujourd'hui, elle émet plusieurs réserves. Je précise ici que ce sont ses réserves, son avis, et que nous ne faisons que les transmettre pour garder en tête qu'il faut toujours rester critique. Ce n'est pas un sujet que nous maîtrisons sur le bout des doigts, nous ne donnons donc pas d'avis sur la recherche effectuée ou sur les critiques de la zoologue.
Alors tout d'abord, la zoologue est parfaitement d'accord que la découverte de cette sous-population d'ours polaires est un des faits les plus intéressants concernant cette espèce depuis des dizaines d'années. Le problème, c'est que les médias, et même les auteurs, ont mis en avant le réchauffement climatique et le sort des ours polaires sur la planète au lieu de se focaliser sur les particularités génétiques de cette population, ce qui est, selon elle, le réel point d'intérêt de cette découverte.
À propos des fjords utilisés par les ours, ils gèlent régulièrement, permettant ainsi la chasse aux phoques, comme pour les autres populations d'ours. Il est donc exagéré de dire que ces ours vivent sans banquise, d'autant plus que si certains fjords ne gèlent pas, les ours peuvent facilement passer dans une autre vallée à proximité pour y trouver de meilleures opportunités de chasse. Ce qui est étrange d'ailleurs, c'est que les auteurs supposent que la chasse durant l'été permet à cette population de survivre, mais en réalité, ils n'ont vu d'ours qu'au printemps. En mars et en avril. Ils ne peuvent donc pas savoir ce qu'il en est en été. Même s'ils arrivent à chasser durant cette période, il n'y a aucune preuve qu'ils ont des succès répétés de chasse et que ce sont ces succès qui leur permettent de survivre. Dans tous les cas, on peut dire que ces ours survivent sans banquise en été et en automne. Mais c'est en fait ce que font bien des ours dans des zones arctiques. Cet article soutient en réalité l'hypothèse et apporte de bonnes preuves pour le fait que la présence de la banquise au début du printemps est un facteur critique pour la survie des ours.
Dernier point que nous allons mentionner ici, c'est que les auteurs disent que ces glaciers sont peu abondants et peuvent servir de refuge climatique pour certaines espèces. Or, il en existe en réalité des centaines rien que le long de la côte du Groenland, et même bien plus en considérant une zone élargie. Et les ours sont connus pour chasser dans ces fjords, dans d'autres zones que le sud-est du Groenland, comme d'autres publications l'ont montré. Cet habitat n'est donc pas vraiment une nouveauté.
Par contre, il y a là une question qui n'a pas été soulevée par les auteurs et qui est, selon cette critique, le point sur lequel ils auraient dû s'étendre. Comment est-ce que ces ours sont arrivés ici et y sont restés piégés pour devenir au final une population génétiquement isolée ? Dans les années 1800, les conditions météo ont été extrêmement froides et la banquise s'est formée de manière très intensive. De ce fait, des individus ont pu atteindre des zones inabordables et y être piégés quand la banquise a reculé ensuite. Selon la zoologue, mettre ceci en avant irait à l'encontre de la « mode » entre guillemets du changement climatique qui cherche à faire prendre conscience à tous qu'il faut réduire nos émissions de CO2. C'est un fait, hein, on ne le nie pas. Et il faut absolument tendre vers cette habitude pour limiter le réchauffement et préserver notre planète. Mais il ne sert à rien d'utiliser cette excuse à tort et à travers. Ici, on peut admettre que si la banquise s'est fortement formée dans les années 1800, c'est que les conditions peuvent changer naturellement et dramatiquement sur de très courtes périodes de temps.
Loin de nous l'idée de diminuer l'importance de la découverte de cette population d'ours, ni du problème du réchauffement climatique. Mais il est intéressant, et c'est ce que nous voulions montrer aujourd'hui, de voir que même au sein d'un travail scientifique, la mention du réchauffement climatique devient parfois une mode que l'on cherche à mettre en avant, alors que d'autres questions plus pertinentes se posent.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Nous espérons que cette manière critique de voir les choses vous a intéressé et que vous êtes, comme nous, tout de même ravis d'apprendre l'existence de cette nouvelle population d'ours polaires qui était méconnue.
Dans les prochains rendez-vous de Nariès, nous venons de faire notre sortie nature de juin sur les castors, mais nous enchaînons avec celle de juillet qui aura lieu samedi matin. Nous irons chercher des reptiles au Moulin de Verre. Si la balade vous tente, n'hésitez pas à vous inscrire à la sortie par le biais de notre site internet www.nariès.ch, rubrique sortie nature.
Autre rendez-vous du week-end, nous irons dimanche au parc floraire de Schönbourg pour le Clic Nature de l'été. Nous vous rappelons que les rendez-vous Clic Nature sont des rendez-vous de passionnés de photos, mais que le but est de s'amuser et non de juger. Nous donnons un thème et vous êtes invités à réaliser des photos durant quelques heures autour de ce thème. C'est un exercice sympathique qui permet aussi de donner des conseils si vous avez une image en tête mais que vous ne savez pas comment la réaliser. Toutes les infos sont aussi sur notre site internet.
N'oubliez pas que le défi de la semaine de notre éco-challenge est de ne pas jeter de nourriture. Faites des photos de vos plats vide-grenier et partagez-les sur les réseaux sociaux en taguant hashtag éco-challenge 2022 et hashtag nariès-ch. Nous sommes toujours ravis de voir vos réussites.
Et même si l'école est finie et que l'été a démarré, nous nous retrouverons encore quelques semaines avec Genève côté nature. Et nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau côté passion.
Bonne semaine à tous!
Au revoir!
Genève côté nature.